Les deux drapeaux retirés des permis de conduire, le gouvernement a trouvé une solution pour mettre fin à une polémique de plus d'un an. La poursuite de l'enquête sur la mort du gendarme Molinari, les investigations se poursuivent, mais 9 personnes ont déjà été mises en examen. Concurrence et intégration économique et régionale, un colloque de 3 jours s'est ouvert cet après-midi à l'UNC en partenariat avec l'autorité de la concurrence. La préparation du prochain sommet du Forum des îles du Pacifique, l'Australie et la Chine rivalisent pour apporter leur soutien logistique à la réunion prévue courant septembre. Et puis en football, la sélection U16 de Nouvelle-Calédonie de football remporte la demi-finale du tournoi OFC sur Fidji, victoire synonyme de qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie d'âge prévue au Qatar en 2026. Bonjour et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Il n'y a plus de drapeau sur le permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie. C'est la décision unilatérale prise par le président du gouvernement plus d'un an après la décision du tribunal administratif ordonnant le retrait du drapeau Kanak. Aujourd'hui, la note est salée, 26 millions de francs que la Nouvelle-Calédonie doit à l'État, Charlotte Coulson.
C'est la fin d'une longue bataille juridique. En 2023, le drapeau Kanak était ajouté à côté du drapeau tricolore sur les permis de conduire à la suite d'un arrêté pris par le gouvernement Louis Mapou. Une décision très vite contestée, notamment par Génération NC, qui en janvier 2024 avait formé un recours devant le tribunal administratif. Le jugement avait été rendu 4 mois plus tard, le drapeau indépendantiste n'étant pas un signe identitaire de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement ne pouvait pas le faire figurer sur un document d'identité. C'est en juillet 2024 que la sanction est tombée pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie. 100 000 francs d'amende par jour, tant que le symbole n'est pas retiré, une somme qui a augmenté progressivement pour atteindre 600 000 francs par jour. 13 mois plus tard, la facture est lourde, 26 millions de francs. La situation semblait insoluble en raison du refus de Gilbert Thuyénon, le membre du gouvernement compétent en la matière. De plus, le gouvernement n'était pas assuré d'avoir la majorité sur le sujet, notamment en raison de la position des membres indépendantistes et de l'éveil océanien. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a donc décidé de cesser les frais. Il a pris unilatéralement la décision de supprimer les deux drapeaux sur le permis de conduire et il a envoyé un courrier en ce sens à la DI3T, explique le porte-parole du gouvernement Christopher Gigès.
Il fallait laisser un petit peu de temps pour trouver une solution et finalement on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas trouvé de majorité, on avait un membre du gouvernement qui ne voulait pas apposer son contreseing et donc pour respecter la loi maintenant, le président du gouvernement a pris sa responsabilité puisque sa responsabilité pouvait aussi être engagée, mais il avait choisi le fait de le faire dans le dialogue. Aujourd'hui, chacun a pris sa responsabilité et nous avons un nouveau permis.
L'amende, elle est très élevée. Est-ce qu'il y a des solutions envisagées pour peut-être éviter de payer la totalité?
Oui, on est aujourd'hui à environ 26 millions d'amendes qui ont été facturées à la Nouvelle-Calédonie, mais nous avons des discussions avec l'État pour ne pas payer cette amende. Enfin, aujourd'hui, verser de l'argent à l'État, c'est pour qu'il nous le reverse derrière. Chacun pense que ça sera une bonne solution si cette amende pouvait être annulée.
La décision d'Alcide Ponga a été prise sans l'accord de Gilbert Thuyénon, qui pourrait donc former un recours contre cette suppression du drapeau Kanak. En attendant, les nouveaux permis ne porteront donc plus aucun drapeau, mais les quelques 26 000 permis de conduire sur lesquels figurent les deux sont toujours valides.
Dans un communiqué, Génération NC se félicite de cette victoire de l'état de droit. Le parti qui avait été à l'origine du recours indique qu'au total, l'entêtement de Gilbert Thuyénon, membre indépendantiste en charge du secteur, aura coûté plus de 30 millions de francs aux Calédoniens. Il estime que c'est intolérable dans la situation économique catastrophique que connaît la Nouvelle-Calédonie et se félicite de cette victoire. Génération NC qui remercie le président du gouvernement, Alcide Ponga, d'avoir trouvé le moyen de faire appliquer la loi malgré l'obstination du membre en charge du secteur du transport. Une nouvelle réglementation pour les Nakamal. Ces dernières semaines, certains établissements ont fait parler d'eux, comme le City à Nouméa, fermé administrativement pendant 2 mois, après un nombre répété d'agressions, de rixes ou de vols avec violence qui ont été recensés près du lieu. Aujourd'hui, les membres du gouvernement ont adopté un avant-projet de loi du pays qui vise à faire évoluer le cadre juridique de la vente et de la consommation de cava, Charlotte.
Les Nakamal ont actuellement le même statut qu'un salon de thé, ce qui forcément pose quelques soucis en termes d'hygiène, de réglementation économique, mais aussi parfois de sécurité publique. Dans le cadre du groupe de travail des présidents d'exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, un avant-projet de loi du pays a donc été rédigé. S'il est adopté au Congrès, les gérants de Nakamal devront suivre les mêmes démarches que pour la vente d'alcool, explique Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
On a eu une volonté à la fois des provinces et des communes d'avoir une meilleure réglementation et d'avoir une vraie réglementation qui nous permet d'agir à la fois sur le côté sécuritaire, sur le côté économique et sur le côté sanitaire. Donc aujourd'hui, cette loi de pays a été adoptée qui nous permet d'avoir le fait que les gérants des NACAMAL aient une licence comme les gérants qui tiennent des établissements d'alcool, qu'on puisse mettre en place un numerus clausus et qu'on puisse aussi mettre en place une interdiction de NACAMAL près d'établissements scolaires ou d'établissements santé.
Le gouvernement affiche sa volonté de déléguer la gestion des NACAMAL aux provinces et aux communes. L'objectif est de protéger la santé et la sécurité des Calédoniens, explique Christopher Gigès.
On l'a vu ces derniers jours, il y a eu dans certains NACAMAL de la vente de drogue, de la prostitution, des crimes qui ont été faits dans certaines zones. Tous les NACAMAL ne sont pas comme ça, mais beaucoup de NACAMAL aujourd'hui étaient devenus un repère de délinquants et donc il fallait réglementer, il fallait nous donner la possibilité de réglementer. Et quand on a une réglementation qui dit qu'on est un salon de thé, je pense qu'il était urgent de le faire.
Si le projet de loi est adopté au Congrès, les gérants auront un délai de 6 mois pour régulariser leur situation, fournir leur justificatif et obtenir leur licence, puis 6 mois supplémentaires pour effectuer leur mise aux normes. Si ce n'est pas le cas, ils seront contraints de fermer.
Le ministre des Outre-mer a quitté hier soir la Nouvelle-Calédonie au terme d'une visite d'une semaine. Un départ reporté à 2 reprises. La première fois pour la poursuite du travail du comité de rédaction. La seconde pour un entretien hier matin avec la nouvelle délégation du FLNKS. Et avant son départ, Elisabeth Noir, il a dressé le bilan de ce séjour face à la presse.
Il a évoqué notamment la chute du gouvernement Bayrou qui est de plus en plus envisagée depuis que le Premier ministre a annoncé qu'il engageait la confiance le 8 septembre. Interrogé sur cette éventualité, Manuel Valls s'est montré serein en affirmant que l'État de Rakhine, quoi qu'il arrive, assurait la continuité des échanges et du cap tracé. Selon lui, la chute du gouvernement pourrait entraîner un décalage de quelques jours ou de quelques semaines, mais sans remettre en cause le processus engagé. Le gouvernement continuera en effet à traiter les affaires courantes et urgentes, et cela concerne notamment le projet de loi organique pour le report des élections provinciales. Le texte doit passer le 17 septembre devant la commission des lois du Sénat pour être examiné en séance publique le 23 septembre par la Haute Assemblée, puis par l'Assemblée nationale, et elle doit être promulguée vers la mi-octobre pour le report des provinciales à juin 2026. Ce sera un peu plus compliqué pour le projet de loi constitutionnelle qui doit être examiné par le gouvernement le 17 septembre, avant d'être adopté par le Sénat en novembre et par l'Assemblée nationale en décembre. Le ministre des Outre-mer a annoncé avant son départ une réunion du Congrès de Versailles le 15 décembre pour modifier la Constitution. Ce calendrier est beaucoup plus aléatoire en cas de chute du gouvernement et avec l'éventualité toujours possible que Manuel Valls ne soit pas reconduit dans ses fonctions de ministre des Outre-mer. Il reste aussi bien sûr l'inconnu d'une majorité des 3/5 nécessaire pour modifier la Constitution dans un climat politique national qui est plutôt éruptif et marqué par l'instabilité, même si le ministre des Outre-mer veut là aussi se montrer confiant. Mais comme c'est cette loi constitutionnelle qui permet notamment la consultation des Calédoniens en février, cela pourrait provoquer un retard dans le calendrier. Des retards prévisibles donc en cas de chute du gouvernement Bayrou, mais surtout une incertitude beaucoup plus grande en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, selon un scénario qui est de plus en plus envisagé. Comme le disait hier Manuel Valls, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, on entrerait dans une autre dimension.
Et le ministre a aussi été interrogé, Elisabeth, sur l'échange de 3 heures qu'il avait eu le matin avec la nouvelle délégation du FLNKS. On rappelle que Manuel Valls avait décidé de prolonger son séjour de 24 heures pour pouvoir rencontrer cette délégation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS sont satisfaits que le comité de rédaction ait abouti à la rédaction de la première version du projet de loi constitutionnelle. Ils sont 17% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Voici notre question du jour. L'engagement de la confiance par le Premier ministre qui pourrait provoquer son départ de Matignon peut-il avoir, selon vous, des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival? Si vous pensez que cela peut avoir des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans l'actualité politique, en Calédonie, un nouveau groupe au sein du conseil municipal de Dumbéa. le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement d'Umbéa. Il s'agit d'une déclinaison locale de l'union entre les loyalistes qui réunit Génération NC de Nicolas Metzdorf, le Mouvement Populaire Calédonien de Gilles Brial, les Républicains Calédoniens de Sonia Bakès et le Rassemblement d'Alcide Ponga. Dans un communiqué, les élus municipaux de Umbéa, appartenant à ces différents partis, indiquent qu'ils sont engagés aux côtés de leurs responsables pour soutenir, défendre et expliquer l'accord de Bougival à la veille d'échéances politiques majeures comme le référendum, les municipales et les provinciales de 2026. Ils ont donc décidé de forger cette union politique au niveau communal en réunissant les groupes Génération d'Umbéa et d'Umbéa Intègre, ainsi que des membres de la majorité municipale ou d'anciens de la majorité siégeant en non-inscrits et qui ont été déçus des prises de position récentes du maire, notamment au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau groupe compte 9 élus, dont Pierre Mestre, le 9e adjoint au maire, et c'est Cynthia Jean, chef de file de l'opposition municipale depuis 2020, qui en assurera la présidence. Le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement d'Umbéa, annonce qu'il lancera des propositions concrète dès le conseil municipal qui se réunira demain. L'enquête se poursuit dans l'affaire du meurtre du gendarme Molinari le 15 mai 2024 à la coulée. La semaine dernière, une reconstitution précise a eu lieu sur place pour déterminer l'implication de chacun des mis en cause, Michael Juneski.
Oui, des carcasses ont été remises en place pour reproduire fidèlement le lieu. Le soir du drame, 450 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité de cette opération judiciaire. Témoins et mis en cause ont été entendus pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Il ressort que vers 20h10, ce 15 mai 2024, un tireur se trouvant à une distance comprise entre 200 et 230 mètres du bus de gendarmerie, a ouvert le feu avec une arme longue équipée d'une lunette de visée. Il aurait tiré au moment où le gendarme Molinari utilisait son téléphone portable, ce qui a éclairé son visage dans la nuit. La balle a traversé le pare-brise et a atteint le gendarme Molinari à la tête. Il décédera 3h30 plus tard. Le tireur se trouvait dans un véhicule qui avait roulé en convoi peu de temps avant le drame, en vue d'un cambriolage au casino de la Coulée. L'enquête avance, mais il s'agit d'un dossier compliqué, nous a dit le procureur de la République, Yves Dupas.
C'est un dossier où nous avons effectivement des silences, des mensonges, des contradictions. C'est un dossier compliqué qui implique effectivement 9 personnes qui sont mises en examen. 3 chefs d'infraction principaux. C'est à la fois l'association de malfaiteurs en vue de la commission de crime. C'est bien sûr le crime de meurtre sur le gendarme Molinari en bande organisée. C'est aussi le crime de tentative de meurtre en bande organisée sur les autres gendarmes, puisque le gendarme Molinari était dans le véhicule avec ses camarades de ce détachement de gendarmes mobiles. Ils étaient 7. Et donc, ils ont été tous visés par une série de tirs. À ce jour, nous n'avons pas identifié formellement le tireur qui a tué le gendarme Molinari, mais nous avons identifié 2 personnes, 2 tireurs qui ont tiré vers ce véhicule qui était au bout du pont de la Coulée.
L'un des tireurs présumés a été mis en examen et est en détention. L'autre a été tué le 19 septembre lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Pour le procureur Yves Dupas, la justice doit pouvoir travailler sereinement pour permettre la manifestation de la vérité. Il a réaffirmé ce matin toute sa détermination.
Le travail de manifestation de la vérité, c'est le cœur de l'action de la justice, suppose de la discrétion et de la sérénité. C'est un travail titanesque qui est mené, parce que d'abord nous devons la vérité à la famille du gendarme Molinari. Nous devons la vérité à ses camarades de l'escadron de Melun. Et nous devons la vérité aussi aux Calédoniens. C'est une affaire dramatique qui s'est déroulée ce 15 mai. C'est aussi un drame pour la République et pour l'État de droit. Donc, pour tout ceci, de notre côté, c'est une détermination absolue à élucider de manière effectivement la plus complète possible cette affaire.
Les forces de l'ordre sont encore régulièrement prises à partie. Ce fut encore le cas à Marais, lundi matin, vers 4h30. Une administrée a appelé les gendarmes qui se sont immédiatement préparés à partir en intervention. C'est à ce moment-là qu'un individu a tiré un coup de feu dans une fenêtre de la caserne. 18 impacts ont été relevés, dont certains ont été perforants sur des portes et des cloisons intérieures. Des faits graves qui mobilisent la justice. Le tireur a été identifié et placé en garde à vue ce matin.
Merci Mickaël. Il sera 18h dans quelques secondes. On va marquer une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie, notamment ce colloque qui s'est ouvert cet après-midi et qui est consacré aux économies dans les États insulaires.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello rue Auguste Brun, samedi 30 août, café rencontre de 9h30 à 12h. Expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Info soir, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cette question. Comment préserver un marché libre tout en favorisant des échanges régionaux? C'est la problématique à laquelle sont confrontés les petits territoires comme la Nouvelle-Calédonie qui tentent de développer leur économie insulaire. Une question à laquelle vont également essayer de répondre une trentaine de spécialistes pendant 3 jours ou du moins tenter d'y apporter quelques axes de réflexion. Le colloque international intitulé « Concurrence et intégration économique régionale » s'ouvre aujourd'hui à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il est organisé par l'Autorité de la concurrence et l'UNC. C'est d'ailleurs sa présidente Catherine Ries qui a ouvert les échanges cet après-midi.
Le but de ce colloque est de confronter différents points de vue, différentes expertises sur la question de la concurrence et de l'intégration régionale. Parce que souvent, ce sont des intentions qui peuvent être contradictoires dans les effets qu'elles produisent. Il y a une nécessité d'intégration régionale et de s'alimenter et de se rapprocher de nos voisins de la région. Et c'est parfois difficile à mettre en œuvre avec le respect de la concurrence. Donc c'est cet équilibre qu'on peut trouver entre à la fois produire localement, pouvoir exporter dans la région, échanger avec nos partenaires régionaux et en même temps garantir la concurrence qui a quand même des vertus en termes de pouvoir d'achat pour le consommateur.
3 jours de table ronde qui vont réunir des économistes, des membres d'organisations internationales comme l'OCDE, l'ONU, l'OMC, mais aussi des représentants des autorités de la concurrence d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de la Réunion et même des Caraïbes. À l'issue de ces 3 jours de discussion, un document de recommandation pourra être formulé et transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, explique Stéphane Reterer, le président de l'autorité de la concurrence.
Le gouvernement est notre partenaire, donc il suit le colloque. Les entreprises, l'autorité de la concurrence, les universitaires, les économistes vont faire des propositions, il va en sortir quelque chose. Nous, on va produire un document de synthèse de travaux pour le gouvernement. Donc ça sera ensuite au gouvernement de voir ce qui peut être. Ça peut être une modification de réglementation pour simplifier une norme, par exemple, ou des comportements qui seront mis en œuvre par les entreprises pour pouvoir améliorer l'approvisionnement ou l'exportation, ou faire des demandes de simplification de normes. Enfin, ça peut être beaucoup de choses.
Ce colloque qui a débuté cet après-midi se poursuit demain de 8h à 17h à l'UNC et vendredi de 9h à midi à la CCI. La participation aux échanges est ouverte à tous et gratuite sur inscription. Notez que nous reviendrons sur ce colloque demain matin à 7h30, puisque notre invité sera le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Reterer. Autre rendez-vous d'antenne, les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, à retrouver demain midi, juste après le journal de 11h30. Les soldes d'hiver débutent samedi prochain, l'occasion de se pencher sur le secteur du commerce. Nous recevrons le président du syndicat des commerçants, Ronan Delay, Charles Germain, élu à la CCI, et Didier Vernet, le vice-président du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie. L'association Talent Calédonien a organisé un événement au chai de l'Hippodrome à Nouméa hier, Charlotte, une soirée dédiée aux jeunes talents pour les soutenir dans leurs projets professionnels.
Oui, un événement qui est rythmé par de nombreuses prises de parole et des discours organisés comme un espace d'échange et de rencontre. Thomas Guédel, qui est membre de l'association Talent Calédonien, nous explique le but de cette soirée.
L'objectif de la soirée Talent Calédonien, c'était de proposer une soirée de réseautage à nos adhérents et aux jeunes qu'on a invités, pour justement créer des liens entre les entrepreneurs locaux et les jeunes qui sont parfois en recherche d'un poste ou qui ont un projet et qui ne savent pas trop vers qui se tourner. Donc c'est vraiment le but de l'association Talent Calédonien. On cherche à faire revenir les jeunes calédoniens sur le territoire et on les accompagne dans leur projet de création d'entreprise ou dans leur projet de carrière à travers des dispositifs comme le dispositif de parrainage qu'on va relancer cette année-là. Donc un parrain, c'est un chef d'entreprise qui va vous accompagner pour votre projet. Donc il y a des ateliers de création d'entreprise, il y a des ateliers de recherche d'emploi et surtout en fait vous êtes avec le parrain dans sa vie de tous les jours, dans son entreprise quoi.
L'association Talent Calédonien a donc pour objectif de soutenir et d'encourager les jeunes talents du territoire, mais aussi de les accompagner dans leurs projets et dans leur recherche d'emploi, comme c'est le cas pour Georges, qui n'a pas hésité à saisir cette opportunité.
Moi, j'ai fait toute ma scolarité en Nouvelle-Calédonie. À la suite de mon bac, je suis parti en métropole pour faire une licence de droit que j'ai obtenue l'année dernière. Mon objectif en venant ici ce soir, c'est de trouver des personnes qui me conseillent, parce que le monde de l'entrepreneuriat est pour moi méconnu, et avoir des conseils, élargir mon réseau de professionnels pour pouvoir développer mon activité. Alors moi, je souhaiterais développer une entreprise dans le fast-food, importer un concept qui existe déjà à l'international mais qui est absent sur le territoire, celui de la personnalisation du burger.
Et grâce à cette soirée, des jeunes ont pu mettre en avant leurs projets ainsi que leur parcours professionnel. Ils ont également pu prendre des contacts afin d'être soutenus dans la suite de leur parcours.
Une rencontre intergénérationnelle aujourd'hui pour le conseil municipal junior de Nouméa. Une visite était organisée au foyer logement des Orchidées. Jeux de société, discussions autour de souvenirs d'école, jeux de mémoire. Les jeunes ont pu échanger pendant 3 heures avec des personnes d'une autre génération. Ce projet a été proposé par 2 élèves de CM2 de l'école Paul Boyer.
Là, en fait, il y a des photos. La mairie de Nouméa, avant, c'était une école. L'école Suzanne Bussier. L'école, elle était en 2 parties.
Ça fait du bien de parler avec les
personnes plus âgées.
Oui, voilà. Parce qu'ils ont des histoires incroyables. Et puis nous aussi, on en a à leur raconter.
On s'est rencontrés, on a parlé un petit peu, on a fait des jeux.
On apprend des choses sur notre passé, en plus de l'histoire qu'on fait déjà à l'école. Puis c'est cool quand même de passer des moments avec des personnes qu'on n'a quasiment jamais rencontrées et qu'on vient de connaître.
Une rencontre qui a également plu aux aînés. Une dizaine d'entre eux se sont prêtés au jeu et ont partagé avec émotion leurs souvenirs d'enfance.
Oui, c'est passé ça.
Non.
Non, j'invente maintenant.
On a fait des jeux de société avec les enfants qui sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus rapides. Et puis on a eu avant un échange intergénérationnel. On était interviewés par des jeunes sur notre vie passée, sur nos activités actuelles.
Je trouve que ça nous booste, c'est très bien et je trouve que c'est un beau projet.
Eh bien écoutez, je trouve ça super parce qu'en fait, ils nous apprennent ce qu'ils font maintenant et nous, ça nous remet des années en arrière, ça nous remémore et on leur partage, c'est trop bien.
18 jeunes conseillers municipaux ont participé à cette rencontre organisée en partenariat avec le CCAS de la ville de Nouméa. Et cet après-midi, ils ont élaboré un jeu de lois géant sur la place des Cocotiers. J'aime la culture, en mode art et bien-être, proposé au château Hagen cet après-midi. Des découvertes inattendues, de l'art classique ou surprenant, du patrimoine naturel ou culturel, des ateliers de pratiques artistiques, des spectacles variés, de quoi éveiller bien la curiosité chez les 4-12 ans. De 13h à 17h, une vingtaine d'enfants a participé à différentes activités proposées dans les jardins du château. Écoutez Aurélie Galliot, c'est la médiatrice culturelle du château Hagen.
L'idée, c'est de proposer des animations pour le jeune public, donc un public familial, mais plutôt jeune public, des animations autour de l'art, de la culture, de l'histoire, du patrimoine au château Hagen. Donc tout est gratuit et ouvert à tous. Alors cet après-midi, on a des animations autour de l'art et du bien-être avec des ateliers. Donc on a un atelier d'écriture, un atelier clown et joie, un atelier dessin, peinture, collage et un atelier autour des plantes médicinales au potager éducatif du château Hagen. L'objectif, c'est de proposer pour le jeune public et le public familial particulièrement un moment de détente, de joie, de culture et de patrimoine dans ce site merveilleux qu'est le château Hagen.
Parmi les participants, 23 élèves d'une classe de CE2-CM1 de l'école Le Bagnan de Yatté avec leur professeur des écoles, Méline.
C'était plus la découverte du château et des ateliers. C'est super parce que là, ils sont dans leur élément en étant dans le petit jardin botanique. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a à Yatté. Ça reprend un peu certains objectifs qu'on a à l'école avec de l'écriture, de l'art, des sciences avec notamment le jardin. Et après, on a des petits suppléments avec des spectacles clowns et une conteuse.
Atelier clown et un truc rigolo. La dame, elle nous a dit de nous déguiser. Moi, super-héros, lui là-bas, vampire, Edson chevalier, puis elle c'est une princesse et puis elle c'est une serf. C'est génial.
On est en train de goûter les tisanes à la menthe avec du romarin. C'est très bien.
On apprend des plantes quand on ne connaît pas leur nom.
Par exemple,
tisane de menthe. Ça c'est du romarin.
On a du romarin avec de la menthe, du bissap. Le bissap, c'est cette fleur. La fleur, elle est rouge pour faire du sirop et de la confiture. C'est du curcuma. J'aime bien les plantes parce qu'à Yatté, il y a plein de plantes.
Et cette animation s'est clôturée par le spectacle L'Enchanteuse, animé par la conteuse Josiane Boudière. Il est 18h et bientôt 10 minutes. Une dernière pause avant la fin de ce journal. Dans la dernière page dans laquelle nous parlerons de l'actualité dans la région, de sport et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Jean-François Bodin.
Et l'actualité dans la région avec la préparation du 54e sommet du Forum des îles du Pacifique. Il aura lieu courant septembre à Honiara, la capitale des îles Salomon. L'Australie et la Chine rivalisent pour apporter leur soutien logistique pour ce rendez-vous. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Afin d'aider les îles Salomon à mieux organiser ce sommet, l'Australie vient de leur livrer 31 des 61 véhicules de police qu'elle fournira à Honiara en prévision de l'événement. Le premier ministre de l'archipel, Jeremiah Manele, a précisé que les véhicules, des Toyota à double cabine, ont été choisis en collaboration avec les forces de l'ordre locales, je cite, afin de répondre à des besoins opérationnels spécifiques de façon à garantir un environnement sûr et sécurisé pour le sommet du forum. Pour ne pas être en reste, la Chine vient quant à elle d'offrir au gouvernement salomonais 27 véhicules GWM pour Great Wall Motors à 4 roues motrices et dotés de cabines à 7 places. L'ambassadeur de Chine à Honiara, Chai Weiming, a précisé que ce don s'inscrit dans le cadre du soutien de Pékin à l'organisation du sommet. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et notez que l'Australie a également offert début août 12 Toyota Land Cruiser blindés aux forces armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'actualité sportive avec du football et la sélection calédonienne des moins de 16 ans a décroché son billet pour la Coupe du Monde de sa catégorie d'âge. Les Calédoniens se sont imposés en demi-finale du tournoi OFC face aux Fidjiens aux tirs au but. Le score était de 1 but partout entre les deux formations à la fin de la partie. Les Calédoniens ont finalement gagné la séance fatidique des tirs au but au bout du suspense sur le score de 5 tirs à 4. Grâce à ce succès, nos représentants sont assurés de jouer le mondial des moins de 17 ans au Qatar en 2026. Écoutez la réaction de Francis Quatron, le coach de la sélection calédonienne des moins de 16 ans.
Après cette victoire, hein, que les garçons ont été cherchés jusqu'au bout, jusqu'à leur trip, jusqu'à tir au but. La pression elle était tellement intense que au coup de sifflet, sur le dernier arrêt du gardien, toute la pression est descendue. La clé aujourd'hui pour cette performance, c'était la solidarité entre les joueurs, la cohésion de groupe et la détermination.
Et l'autre demi-finale se joue actuellement sur les terrains des îles Salomon entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. La finale du tournoi des moins de 16 ans se jouera dimanche à 17h. Et puis toujours dans la région du rugby, la sélection calédonienne des moins de 16 ans poursuit son déplacement en Nouvelle-Zélande au Lindisfarne College de Napier dans l'île du Nord. Les Calédoniens se sont inclinés aujourd'hui dans un match amical face à des jeunes Kiwis de cet établissement scolaire spécialisé dans la formation des rugbymen. Ils ont perdu 41-7. Les Calédoniens qui profitent également de ce voyage pour partager des moments d'échange conviviaux avec leurs camarades néo-zélandais. Il est 18h14, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et vous allez tout nous dire, Pierre, sur la météo des heures à venir.
Cette nuit, à l'exception de quelques plaques de nuages bas sur le sud-ouest et au Loyauté, le ciel restera largement étoilé. En fin de nuit, quelques bancs de brume pourront se former par endroits, donc attention à la route. Le vent de sud soufflera en début de nuit entre 5 et 10 nœuds, et ce sera tout. Les températures minimales afficheront une nette baisse par contre, comprise entre 13 et 19 degrés, et pouvant descendre jusqu'à 10 degrés sur les Loyautés. Demain matin, quelques plaques nuageuses accompagnées de rares ondées concerneront la pointe nord et le nord des Loyautés. Ailleurs, la matinée sera très ensoleillée, et le vent restera faible et de direction variable.
Merci Pierre, c'est la fin de ce journal consacré à l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.